Qui nous chasse?
Non, je vous rappelle, le but de ces enregistrements, n'est-ce pas, c'est de fournir à nos étudiants et à des chercheurs qui s'intéressent à la langue française, à l'expression française actuelle, des documents qui serviront à la fois à la pédagogie et à la recherche. N'est-ce pas, nous tenons à avoir un éventail aussi étendu que possible de tous les points de vue sur toutes les questions. Nous prenons un peu au hasard, mais aussi en choisissant des gens qui représentent des opinions bien nettes, bien définies. Mais enfin, de toute façon, il ne s'agit pas de quelque chose qui est destiné à la publication, mais...
Alors, c'est ça, oui, des usages intérieurs.
Intérieurs.
Voilà, même au cas où il serait question d'une publication éventuelle, bien sûr que nous demanderions la permission de...
Oui. Oui, bien sûr. Non, parce qu'évidemment, vous comprenez, cela engage, je suis ici en tant que responsable du Parti communiste, ça engage donc le Parti communiste dans son ensemble. Donc à partir du moment où les choses doivent être publiées, nous sommes amenés des fois à dire les choses autrement, vous comprenez bien, si c'est une déclaration publique, il faut la travailler, quoi. Nous n'aimerons pas beaucoup, disons, les choses improvisées. Ça engage vraiment le parti, nous sommes des gens sérieux qui ne parlons pas comme ça, comme des perroquets, et en conséquence de quoi on tiendrait, alors bon, cette précaution étant prise, je crois que nous pouvons être d'accord pour cet enregistrement.
Quelques questions, il y a certaines questions auxquelles vous avez préféré répondre dans votre qualité officielle, mais il y a d'autres qui n'impliquent que des opinions personnelles.
C'est ça, oui.
N'engageant que vous.
Oui. C'est ça, oui.
De toute façon, on ne va pas mettre les noms propres sur toutes les bandes.
Oui, bien sûr. Oui, oui.
Enfin, une chose qui est intéressante, une question intéressante, c'est de voir comment des gens d'origine et de situations différentes voient la ville d'Orléans, voient la structure sociale de la ville. Oui. Est-ce que vous pourriez nous esquisser en quelque sorte le profil social d'Orléans tel que vous le voyez?
Oui. Il faut dire qu'Orléans est une ville qui connaît une expansion très importante ces dernières années, d'autant que la voici maintenant avec un léger retour en arrière, avec une vocation universitaire, puisque c'est installé à ce magnifique coin de la ville d'Orléans, à la source universitaire, les deux facultés. Secteur dans lequel s'installent également de nombreuses habitations, de nombreux services publics tels que le bureau de recherche géologique et minière, le centre de chaînes postaux de Paris qui va se décentraliser avec environ 4000 personnes, ce qui veut dire que ce sud d'Orléans prend bien son nom de ville satellite, d'Orléans numéro 2. Et tout cela accroît le rayonnement d'Orléans, qui est déjà fort grand dans l'histoire de France. Et Orléans, de plus, est cette ville en expansion non seulement pour elle-même, mais à la voisine. Le dernier recensement nous a donné les chiffres, environ 100 000 habitants. Mais il y a toute cette banlieue orléanaise qui voit son chiffre d'habitants considérablement augmenté par rapport à l'avant-guerre. Nous avons la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle dans la banlieue ouest, dont je suis d'ailleurs le représentant au Conseil général du Loiret, qui est passé de 8000 habitants à la Libération à 16000 maintenant. Et puis des villes comme Fleury-les-Aubrais, La Chapelle-Saint-Mémin, Saint-Jean-de-Bray, enfin tout, vraiment toute cette banlieue orléanaise qui connaît un afflux de population, qui est dû au fait que nous subissons un exode rural, c'est-à-dire des travailleurs des campagnes, ouvriers agricoles ou petits exploitants, sont venus à la ville abandonnant leurs fermes parce que le travail était peu rémunérateur, notamment dans certaines régions agricoles, et des ouvriers agricoles, eh bien, se sont, le mot est à la mode, reconvertis en venant à l'usine, là aussi chercher un travail plus rémunérateur, et donc ont tenu à se fixer à proximité de leur travail en construisant leur maison ou en accédant à ce que nous appelons ici à des HLM, vous savez, ces grands bâtiments à appartements multiples. Et donc, ce qui fait que l'agglomération rouennaise est très importante et que, dans une optique qui est celle des pouvoirs publics, prévoyons pour 1980 300 000 habitants dans cette agglomération rouennaise, et c'est pourquoi vous avez ici ce que nous appelons le plan du groupement d'urbanisme d'Orléans, lequel laisse entrevoir les grands travaux qui ont d'ores et déjà commencé et qui vont avoir lieu dans les prochaines années, deux importantes autoroutes qui vont passer à proximité de la ville d'Orléans, donc dans cette banlieue ouest notamment, ce qui va imposer la construction d'un troisième pont sur la Loire à l'ouest et d'un quatrième pont à l'est de la ville d'Orléans. D'ailleurs, il sera même sur le territoire de la ville d'Orléans, à proximité de la piscine, puisqu'il sera accolé au pont Vierzon. C'est donc dire que Orléans est vraiment une seconde capitale. Le fait qu'elle soit à proximité de Paris a facilité l'implantation d'industrie, d'administration. Ce sont des choses qui ont joué, évidemment, dans maintenant le rôle qu'est appelée la ville d'Orléans, laquelle est, selon les vues du pouvoir gaulliste, que nous ne partageons pas entièrement, mais enfin, est capitale régionale. Et incontestablement, Orléans mérite bien son nom de capitale régionale. Donc voilà, brièvement esquissé, les aspects essentiels de ce qu'est maintenant Orléans et de ce qu'il est appelé à devenir.
Oui, je voulais parler aussi, enfin, de la structure de classe à l'intérieur d'Orléans, n'est-ce pas? Quelles sont les différentes classes? Quelle est la proportion, l'importance de chacune?
C'est ça. Alors, Orléans, par tradition, était une ville comprenant ce que nous appelons des classes moyennes, à savoir commerçants artisans, en très grand nombre, et des gens employés dans les magasins ou dans les différents services publics. Parce que l'industrie orléanaise, certaines entreprises sont anciennes, mais sont limitées à des petites industries telles que, dans un passé fort loin, l'industrie textile, l'industrie des conserves. Vous avez ici l'usine Dessau qui s'est installée en 1789 et qui depuis fait du vinaigre et de la moutarde qui sont, semble-t-il, reconnues dans le monde entier. Si bien que la classe ouvrière, à proprement parler, la classe ouvrière des usines, n'a fait son apparition qu'au lendemain de la guerre de 1914, avec la venue, par exemple, ici, d'une importante usine, qui est l'usine que nous appelons toujours l'usine Termor, spécialisée dans la fabrication des appareils électroménagers. Puis une vieille industrie également, l'industrie automobile, l'usine Panhard, et un peu à la banlieue est de la ville, une importante usine, la Compagnie Générale d'Électricité, dont la fabrication essentielle est ce sont les moteurs électriques, ce sont les palans, enfin tout un peu les engins de levage électrique. Si bien que cela ne produisait pas forcément ces ouvriers habités Orléans, et la proportion d'ouvriers, de classe ouvrière parmi la population orléanaise était vraiment l'infime partie. Alors évidemment, ces travailleurs étaient répartis dans les différentes communes. Ce qui veut dire que Orléans n'est pas une ville identique à ce que nous appelons, compte tenu de l'influence du Parti communiste, la banlieue rouge. C'est une ville traditionnellement bourgeoise, et il faut tenir compte de l'influence de l'Église, pour diverses raisons. Orléans est la ville aux 17 clochers, donc cela a évidemment des conséquences sur le comportement politique de la population, et donc sur l'influence du Parti communiste. Influence qui n'est pas négligeable, puisque aux dernières élections, je parle des élections législatives du mois de mai-juin, qui ne se sont pas déroulées forcément dans de bonnes conditions, vous savez bien, à l'issue des mouvements de grève chez les ouvriers et les étudiants, eh bien, sur la ville d'Orléans, le Parti communiste a totalisé 8000 suffrages. 8000 suffrages. Donc voilà, si vous êtes la ville d'Orléans, mais et bien sûr que c'est comme ça pour la région parisienne, d'ailleurs, pour trouver la véritable influence du Parti communiste, et donc la force de la classe ouvrière, c'est incontestablement dans la banlieue qu'il faut la trouver. D'autant plus que maintenant, Orléans aurait un peu tendance à se vider de sa substance ouvrière, notamment ce qui concerne le centre. Vous avez des vieux quartiers dans le centre, le quartier Bourgogne, le quartier Descartes, de la rue d'Angleterre, où C'était essentiellement des foyers de travailleurs qui habitaient. Mais maintenant, ces travailleurs accèdent soit à des HLM qui se trouvent sur la périphérie de la ville, ou qui se trouvent dans les autres communes de la banlieue, ou alors, eh bien évidemment, avec toutes les possibilités, bien que restreintes, mais enfin possibilités qui existent quand même, construisent sous la banlieue d'Orléans. Donc voilà en ce qui concerne les catégories sociales de la ville elle-même.
Est-ce qu'il y a des différences marquées entre les différentes sections de la classe ouvrière suivant leurs origines ou bien leur rang dans la hiérarchie du travail ou bien leur logement
Bien sûr. Comprenez, il y a bon, déjà au sein de la classe ouvrière elle-même différentes catégories professionnelles. Il y a ceux qui, ouvriers hier, ont accédé grâce à leurs connaissances, grâce à leur volonté, à devenir des cadres, des techniciens dans l'industrie, et qui de ce fait ont un salaire beaucoup plus élevé, c'est très normal, que celui qui est resté ouvrier, soit ouvrier spécialisé ou ouvrier professionnel, et qui de ce fait, ayant un salaire beaucoup plus élevé, ayant un traitement beaucoup plus rémunérateur, cela le conduit à avoir un autre train de vie que celui qui a un salaire beaucoup moins. Vous comprenez, avoir un logement beaucoup plus confortable, avoir des éléments de confort que l'ouvrier, celui qui est resté ouvrier, n'a pas. Alors, il y a donc cette différenciation, mais cela ne pose pas un conflit entre les travailleurs d'une même usine, selon qu'on est ouvrier spécialisé, ouvrier professionnel, cadre technicien. Nous pensons que les uns et les autres ont des revendications qui leur sont propres, et voilà pourquoi, nous, en ce qui nous concerne, nous, Parti communiste, et les syndicats CGT défendent à la fois aussi bien les revendications des travailleurs que celles des employés, que celles des cadres et des techniciens, d'autant plus qu'elles ne sont pas contradictoires. Ce sont des revendications qui existent, qui sont valables, et qu'il faut donc défendre, au même titre que les autres. Évidemment, les revendications les plus urgentes, vous comprenez bien, ce sont l'augmentation des salaires, l'augmentation des pensions et retraites, ça c'est la revendication première, et d'autant plus le maintien de l'emploi. Mais en ce qui concerne l'emploi, il y a période de crise à l'heure actuelle en France, ce n'est pas nouveau d'ailleurs, pensons que le régime capitaliste a toujours besoin d'un contingent de chômeurs, mais nous avons une entreprise Isly à Orléans qui à l'heure actuelle connaît 130 licenciements, et parmi les 130 licenciés, il y a de tout, il y a des ouvriers, des cadres et des techniciens, ça veut dire qu'on ne choisit pas, comprenez. Donc, et bien là, ces gens ont eu recours à mes services. Eh bien, je ne fais pas distinction, nous demandons que les 130 licenciements n'aient pas lieu, qu'elles visent aussi bien l'ouvrier qu'elles visent le cadre ou le technicien. Donc, ils ne font pas de différenciation catégorielle au sein comme ça de la classe ouvrière.
Quelle est la catégorie sociale la plus défavorisée à Orléans?
Si nous entendons par catégorie sociale, si nous faisons la distinction entre classe ouvrière et classe moyenne, principalement c'est la classe ouvrière qui est la moins rémunérée, et notamment ceux qui n'ont pas de qualification, qui n'ont pas de spécialisation, les manœuvres, et puis quelques ouvriers spécialisés.
Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler un peu des événements de mai-juin, comment ça s'est passé à Orléans?
Eh bien, à Orléans et dans le Loiret, parce qu'il est des fois difficile de détacher les choses, les événements que... Et d'ailleurs, je vous remettrai tout à l'heure les enseignements que notre parti, en a tirés. Disons que le département du Loiret et que la ville d'Orléans en tant que telle, eh bien, ont pris leur part à cet important mouvement revendicatif qui a rassemblé 9 millions de grévistes. Entendons la classe ouvrière et évidemment les étudiants. Et donc, nous avons pu évaluer à une part très grande la proportion des grévistes dans notre département. Elle était à l'image de ce qui s'est passé sur le plan national. Et il n'y avait pas de raison que cela soit autrement, car ce mouvement a été motivé par un mécontentement qui a été accumulé pendant 10 années à l'égard de la politique du pouvoir gaulliste, lequel, c'est bien connu et nous répétons ces choses-là depuis 10 ans, a gouverné le pays dans l'intérêt des monopoles capitalistes, donc contre la classe ouvrière et contre toutes les couches sociales qui ne sont pas monopolistes. Et ce faisant, eh bien, les travailleurs ont pensé que pour pouvoir satisfaire leurs légitimes revendications, les étudiants, les enseignants ont pensé que pour pouvoir faire en sorte que l'université réponde aux besoins, aux tâches qui sont les siennes, à la mission qui est la sienne en ce siècle, en cette année 68, on pensait qu'il fallait recourir à la grève. Et l'origine de ce mouvement gréviste tient simplement à ceci, profond mécontentement dans la classe ouvrière et dans l'ensemble des couches monopolistes, et nous incluons évidemment les étudiants, les enseignants. Alors l'ampleur et la cohésion de ce mouvement, qui a peut-être surpris certains, vient du fait que du rôle éminent joué par la CGT, par la politique suivie par le Parti communiste, qui a toujours soutenu, et c'est sa vocation, les intérêts des classes travailleuses, des étudiants, des enseignants, et qui, ampleur, cohésion, qui ont permis d'obtenir d'importants résultats que nous appelons accord de Grenelle, puisque à l'issue du mouvement, pendant le mouvement, disons, des entretiens ont eu lieu au ministère des Affaires sociales qui siège rue Grenelle, entre les représentants syndicaux, tant ouvriers que patronaux, et le gouvernement. Et cette force, cette cohésion du mouvement ont permis d'arracher des avantages, nous employons arracher parce qu'il faut vraiment lutter pour l'obtenir, arracher des avantages substantiels. Alors évidemment, il y a eu certains événements au cours de ce mouvement de grève, au cours de ces mois de mai et juin, que nous avons condamné le Parti communiste dès le début, à savoir certains groupuscules voulaient utiliser le mécontentement de protestation, notamment d'abord chez les étudiants, à des fins qui n'avaient rien à voir avec la satisfaction des légitimes revendications des uns et des autres. Nous avons condamné cette politique aventurière qui ne pouvait rendre que service aux gaullistes, et nous l'avons dit. Et nous avons bien vu, hélas, le résultat aux élections. Le gaulliste qui avait du mal à s'expliquer sur le bilan de faillite de sa politique, eh bien, a rencontré des serviteurs dans tous ses agitateurs, car ça lui a permis de dévoyer un peu le mécontentement et de montrer que finalement la grève était une grève politique et que certains, en sous-entendu le Parti communiste, voulaient utiliser ce mouvement de protestation, de revendication pour prendre le pouvoir. Et c'est pourquoi nous avons donc condamné ce désordre, cette anarchie que certains voulaient instaurer, qui se sont précisés par les incendies de voitures, par les arbrossiers, par toutes les exactions que l'on connaît. Et il faut avoir vu et parler avec les gens des campagnes et les gens qui vraiment ne prenaient pas part au mouvement pour voir un peu cette psychose de peur qui s'installait. Et je le répète, le pouvoir gaulliste a su utiliser cette psychose de peur. Alors nous l'avons condamné. Et évidemment, nous avons reçu beaucoup de calomnies, beaucoup d'injures de ceux qui soutenaient ces groupements ou ces groupuscules parce qu'ils ne représentaient pas grand-chose. Et cela a donc conduit, eh bien, à ce qu'il y ait dans l'électorat une forte poussée à droite aux élections des 23 et 30 juin. Et le résultat, eh bien, de ces voitures incendiées, de ces arbrossiers, cela a été l'avantage donné au pouvoir gaulliste de bénéficier maintenant de la majorité à l'Assemblée nationale. Majorité peut-être fragile, parce qu'elle repose sur cette psychose de peur, mais majorité quand même dans le temps présent, il va sans dire que le pouvoir gaulliste va s'en servir pour aggraver encore sa politique. Et que donc la classe ouvrière a besoin de faire le bilan de ses forces et de voir maintenant comment elle va agir pour pouvoir préserver les droits acquis. Parce qu'on entend évidemment au pouvoir et chez les monopoles capitalistes reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre, ce qui veut dire que maintenant la classe ouvrière aura donc à lutter beaucoup. Et alors les élections, j'ai donc dit pousser à droite, du fait de cette psychose de peur, du fait que les gens ont voulu agir eux-mêmes par l'intermédiaire du bulletin de vote contre les agissements de ces provocateurs et de ces groupes gauchistes, mais pousser à droite qui a été renforcé par un mode de scrutin inique, puisque le Parti communiste obtient 33 sièges, alors qu'avec le scrutin à la proportionnelle qui donne à chaque formation le nombre de sièges qu'elle a droit en fonction du nombre de suffrages obtenus, nous aurions obtenu à la proportionnelle 94 sièges. On ne peut pas appeler ça de la démocratie, on ne peut pas appeler ça une assemblée nationale qui représente véritablement le pays. Alors donc, voilà brièvement esquissé les enseignements de ces élections et du mouvement de mai-juin. Mais je vous redonnerai tout à l'heure d'ailleurs cette brochure qui contient les appréciations donc, du Parti communiste au travers d'un rapport présenté par le secrétaire général, notre camarade Val Décrochet, les 8 et 9 juillet. Donc vous trouverez dans ce document, évidemment, le détail de ce que je viens de vous dire et les appréciations de notre parti sur tout cela.
Vu de loin, du point de vue étranger, on dirait que le processus n'est peut-être pas achevé. Je me demande si, à titre personnel, vous avez des prévisions pour l'année à venir.
Bien, des prévisions, vous comprenez, la classe ouvrière décidera elle-même ce qu'elle entend faire pour préserver les droits acquis et pour améliorer encore son niveau de vie, ses conditions de travail, c'est-à-dire pour obtenir la satisfaction d'autres revendications. Il est question du budget français à l'heure actuelle, le Conseil des ministres vient d'adopter, le Parlement va en discuter, mais enfin dans les formes que l'on sait, et incontestablement ce budget va satisfaire certaines catégories sociales, va satisfaire les monopoles capitalistes, et pourquoi on se dit autrement, mais va peser lourd sur les foyers des travailleurs. Les impôts augmentent, différents services augmentent, ce qui veut dire qu'incontestablement, on veut porter un coup aux avantages obtenus à l'occasion de la grève. Il va sans se dire, et nous sommes maintenant, c'est la rentrée politique, c'est la rentrée dans les usines, eh bien, les travailleurs, je le disais tout à l'heure, vont certainement, avec leurs agents syndicales, faire le point et décider je ne sais quel mouvement, mais enfin, il est fort possible que la classe ouvrière ne restera pas passive, quels que soient les événements, parce que certains encore tenteront peut-être d'utiliser le mécontentement légitime de la classe ouvrière à des fins qui n'ont rien à voir avec ses intérêts de cette classe ouvrière. Eh bien, elle a fait l'expérience au mois de mai-juin, parce que certains groupes gauchistes ont voulu, comme on dit en France, se mêler de ce qui ne les regarde pas en allant dans les usines pour dévoyer le mouvement de grève. Alors là, la classe ouvrière a fait son expérience, elle a su repousser ses aventuriers. Eh bien, nul doute que si l'occasion se représentait, sur la base de l'expérience, elle saura repousser les aventuriers et défendre vraiment son droit à l'existence, son droit à la vie, et vraiment défendre son droit de grève. Parce que c'est indispensable pour pouvoir obtenir des satisfactions. Donc, évidemment, on parle beaucoup de la rentrée d'octobre, on met beaucoup de choses sur le dos de la grève, on dit si telle chose augmente, c'est la faute de la grève, hein. On met tout sur le dos des grévistes, les commandes n'arrivent pas ou telle construction n'a pas avancé, c'est la faute de la grève. Vraiment, la grève risque d'avoir bon dos, notamment si on sert les augmentations, que l'on supprime les taxes de vie chère qui servent à alimenter le budget de guerre qui pèse sur les produits de consommation, qui pèse sur les légumes, qui pèse sur les fruits, qui pèse sur l'habillement, qui pèse sur les loisirs, que l'on supprime également les bénéfices considérables que font les sociétés capitalistes, avec l'aide du pouvoir, du fait qu'ils bénéficient d'avantages fiscaux et d'autres privilèges, et nous aurons ainsi une meilleure stabilité, et ma foi, ce serait une politique qui consisterait à faire payer les riches. Et le pape lui-même, l'autre fois, s'adressant aux paysans de Colombie, disait qu'il fallait faire payer les riches. Eh bien, ce mot d'ordre qui est le nôtre ne s'adresse pas seulement à la Colombie, mais s'adresse aux capitalistes français, et c'est eux qu'il faudrait payer. Voilà donc, sur ce point, la réponse que je peux vous faire. Mais évidemment, ça, je vous dis, c'est la rentrée, et les travailleurs, eh bien, vont décider eux-mêmes.
Est-ce que, au Parti communiste, on est, comment dirais-je, pas satisfait, mais enfin, est-ce que, dans une certaine mesure, le développement des événements de mai n'est pas dû au fait qu'il n'y avait pas de programme de préparer qui prévoyait ce genre d'événements? Et est-ce que le Parti communiste n'aurait pas dû, enfin, dans la mesure où il doit rester près des masses et savoir ce que ressentent les masses, est-ce qu'il n'aurait pas dû prévoir un mouvement de ce genre-là?
Nous n'avons pas été dépassés, nous n'avons pas été surpris par le mouvement, parce qu'il faisait la suite, il était la suite logique d'un mouvement continuel de mécontentement, de protestation dans la classe ouvrière. C'est sans cesse que la classe ouvrière est en lutte contre ses exploiteurs, contre le gouvernement. Il y a eu, avant ces événements, il y a eu, ben, on pourrait reprendre pendant de nombreuses années, mais pendant les derniers mois, différents mouvements revendicatifs qui, auxquels prenaient part soit une usine, soit une industrie, soit une corporation donnée. Nous avons ici une usine qui est la verrerie de la chapelle Saint-Mémin, qui est une usine Saint-Gobain, que le Trust a bien connu, et qui ont des salaires absolument très bas et des conditions de travail absolument déplorables. Eh bien, on ne peut pas faire la liste de tous les mouvements revendicatifs entrepris par les travailleurs de cette usine sous différentes formes. Arrêt d'une heure, de tel service, de telle équipe, débrayage d'une journée, débrayage d'une demi-journée. C'est dire que le mouvement de mai était la somme de tous ces mouvements revendicatifs et il répondait à une nécessité d'agir tous ensemble. Eh bien, on dit, bah oui, si nous étions tous ensemble pour agir, peut-être que nous ferions mieux céder le gouvernement, le patronat. C'est l'application de ce mot d'ordre, l'union fait la force. Et incontestablement, vaut mieux se mettre tous en mouvement, nous faisons mieux céder le patronat que des mouvements quelque peu sporadiques. Donc là, on était surpris parce que c'était l'accumulation d'un mécontentement. En ce qui concerne l'université, certains ont dit que nous, communistes, nous étions surpris. Je pourrais vous montrer différents textes du Parti communiste en ce qui concerne ces problèmes de l'université. Seuls n'ont pas entendu le mois de mai-juin pour être préoccupés de l'avenir, de la situation scolaire de notre pays et de l'université afin qu'elle réponde aux besoins qui sont ceux de la France de 1968. Nos dirigeants ont fait élaborer avec soin, avec patience, des textes, notamment pour la réforme démocratique de l'enseignement, s'inspirant de ce projet du lendemain de la guerre élaboré par deux éminents intellectuels communistes, Paul Langevin et Henri Vallon. En ce qui concerne les étudiants, nous sommes adressés à eux et nous leur avons donné toujours les solutions. Nous avons agi au Parlement, notamment, pour faire valoir ces légitimes revendications. Si bien que nous étions très à l'aise lorsque le mouvement de mai-juin s'est produit dans l'université. Il a peut-être été ce mouvement le détonateur et la classe ouvrière a voulu elle aussi participer à ce grand mouvement de protestation contre la politique gaulliste parce qu'elle fait un tout, qu'on soit ouvrier ou étudiant. Mais pour nous, nous n'avons pas été surpris et nous avons su, au travers de ces événements, répondre aux légitimes préoccupations, aux légitimes revendications du monde enseignant, des étudiants en particulier. Je citerai au printemps de cette année d'ailleurs, d'importantes journées d'études de notre parti se sont tenues sur ces problèmes et des documents importants ont été édités et sont à disposition de tout le monde et notamment, j'y reviens, ce projet de réforme démocratique de l'enseignement qui a été élaboré par de nombreux spécialistes au cours de nombreuses séances de travail. Donc en ce domaine, nous n'avons pas été surpris parce que pourquoi le serions-nous ? Bien que nous ne sommes pas des pythonistes, des gens qui voient comment les choses vont se dérouler, mais nous avons une théorie qui a montré son infaillibilité au feu de la réalité. Nous avons une ligne de conduite, c'est-à-dire une ligne politique, et nous ne sommes jamais surpris lorsque dans telle catégorie sociale, il y a telle revendication qui se pose et que la catégorie intéressée entreprend tel ou tel mouvement. Nous ne sommes pas des devins, mais nous prévoyons comment le mécontentement peut-il surgir, et nous prévoyons à l'avance, puisque nous avons cette ligne politique, nous donnons les solutions. Nous avons entendu qu'il y ait ce grand mouvement dans l'université pour donner les solutions qu'il faut apporter à l'université en cette période de 1968.
Le mouvement dans l'université s'est déclenché surtout au niveau de la faculté. Or, il me semble que le pourcentage d'étudiants en faculté d'origine ouvrière est très faible. Est-ce que vous pouvez expliquer le ralliement entre les étudiants et les ouvriers cet été ?
Incontestablement, sans se mettre à la hauteur de l'université, de l'enseignement supérieur, les travailleurs rencontrent de grandes difficultés pour permettre à leurs enfants d'accéder aux écoles. Rencontrent des difficultés parce que les études coûtent cher. Et alors, de ce fait, reculent. Or, il y a parfois la même intelligence dans la tête d'un enfant qui est fils d'un cantonnier, par exemple, et celui qui est fils d'un avocat. Et lorsque nous parlons de démocratisation de l'enseignement, nous entendons, entre autres, permettre à toutes les catégories sociales d'accéder à l'enseignement supérieur. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, parmi le nombre des étudiants, 2% seulement émanent de la classe ouvrière et de la paysannerie laborieuse. Incontestablement, l'enseignement supérieur est réservé à une caste privilégiée. Alors c'est cela qu'il faut finir. Permettre à chacun, selon ses aptitudes, selon ses capacités, eh bien, d'aller là jusqu'où il peut aller, et ce qui suppose évidemment l'aide des pouvoirs publics, ce qui suppose donc la réforme démocratique de l'enseignement, mais également l'aide des pouvoirs publics en ce domaine, c'est-à-dire l'extension des bourses, le prêt salaire des étudiants, enfin tous ces éléments qui permettraient à un travailleur de pouvoir conduire ses enfants vers les études les plus élevées. Alors c'est une des revendications incontestablement pour lesquelles les travailleurs ont pris fait et cause en faveur des étudiants. Les intérêts sont les mêmes. Travailleurs et étudiants avaient donc les mêmes intérêts à ce que l'université française réponde aux besoins qui sont ceux de notre pays au siècle que nous vivons. Et c'est parce qu'il y avait ce retard, ce manque de débouchés dans la fonction enseignante d'abord et ensuite l'étudiant pour aller là où il veut aller, qu'il y a eu ce mouvement et qui a rencontré le soutien effectif de la classe ouvrière, de notre parti communiste, bien sûr.
La question de répondre aux besoins de la France à l'époque actuelle, j'ai déjà chez moi l'enregistrement des propos du président de la République à ce sujet. À votre avis, monsieur, quels sont les besoins qui ne sont pas comblés en ce moment, les besoins de la France?
Eh bien, nous manquons de chercheurs scientifiques. Nous manquons un peu dans tout ce qui concerne l'électronique, en ce qui concerne les sciences appliquées, nous manquons de gens qualifiés, vraiment de chercheurs. Nous manquons de médecins en France. Nous manquons, en ce qui concerne les professions médicales, nous manquons beaucoup de spécialistes. Et nous ne pouvons pas donc répondre à ces besoins de la France qui sont appelés à grandir à partir du moment où nous fermons la porte à une certaine catégorie d'étudiants et où nous ne permettons pas les déboucher parce qu'aujourd'hui, on est chômeur avec certains diplômes et certaines licences. Donc ces besoins de la France, en ce qui concerne certaines industries qui sont appelées à évoluer, l'industrie aéronautique, entre autres, eh bien, sont absolument en retard, et c'est ces besoins-là qu'il faut satisfaire pour pouvoir, là encore, eh bien, répondre à l'évolution des sciences et des techniques. Mais encore faut-il partir de la base, c'est-à-dire à la sortie de l'école primaire ou des collèges d'enseignement technique. J'ai l'occasion de me pencher sur ce problème. Par exemple, nous formons dans les collèges d'enseignement technique des tauliers carrossiers. Or, ces enfants veulent être tauliers carrossiers. Les parents font en sorte qu'ils puissent obtenir ce métier, donc font des sacrifices pour les 3 années d'études en collège technique. Les enfants, eh bien, ils mettent toute leur bonne volonté, ils obtiennent leur CAP, et lorsqu'ils obtiennent leur CAP, eh bien, ils ne trouvent pas d'emploi. Ils ne trouvent pas d'emploi dans la tauliers carrosserie. Pourquoi? Parce que, eh bien, maintenant, les tauliers carrossiers, nous en avons moins besoin, à savoir que les carrosseries de voitures, eh bien, nous ne réparons pas de petits maillets, les bosses qu'une collision a pu causer, mais nous remplaçons l'aile, nous remplaçons des parties de la voiture. Alors, pourquoi former des carrossiers s'ils n'ont pas besoin de carrossiers? Alors que nous avons besoin, par exemple, de jeunes qui se forment dans l'électronique. Pourquoi ne pas permettre à ces jeunes qui sortent de l'école primaire, qui sortent de l'enseignement secondaire, de se spécialiser? Je subis moi-même cette expérience. Mon fils, qui a fait 3 années d'études pour être serrurier, vient d'obtenir son CAP de serrurier, et j'ai eu du mal, après avoir fait toutes les entreprises de serrurerie, et puis les autres entreprises spécialisées dans d'autres fabrications, mais qui ont quand même un service entretien pour besoin de serrurier, j'ai eu du mal à lui trouver du travail. Et c'est valable pour de nombreux jeunes. Et donc, vous prenez des jeunes filles, bah une jeune fille veut être facilement dactylo, veut être facilement coiffeuse. Or, il y a pléthore, il y a une quantité trop grande de ces jeunes filles qui sont coiffeuses, nous n'avons pas besoin. Alors, évidemment, c'est plus facile. Mais il s'agit d'orienter la formation professionnelle et de ne pas laisser les enfants dire ben, « moi je veux faire ci, je veux faire ça » si on sait que demain il n'y aura pas de débouché. Et souvent, eh bien, vous avez, c'est presque ce qui arrive à mon fils, on est chômeur avant d'avoir travaillé. Parce qu'on hésite à embaucher les jeunes de 17 ans, de 18 ans, et donc les jeunes, évidemment, sont à la charge de leurs parents, d'où la formule, sont chômeurs avant d'avoir travaillé. Donc, c'est là le départ. Dès l'école primaire, dès ces jeunes qui sortent de nos établissements scolaires, les aider à s'orienter dans la vie et ne pas les laisser faire ce dont ils veulent faire, parce que des fois, ils rencontrent même un échec. Et c'est là que la responsabilité gouvernementale est en cause, à savoir qu'il faut complètement réformer la formation professionnelle et avoir des options en fonction de ce que la France aura besoin. Demain, je reviens encore à cette formule, bon, on aura besoin, eh bien, des gens, des électroniciens, je prends uniquement cette branche, mais nous n'en ferons pas suffisamment. Vous avez même des jeunes gens, des jeunes filles qui s'orientent vers les professions paramédicales, ce que nous appelons ici le brevet de TSO, le technicien social, et qui, ma foi, eh bien, après leurs études, sont condamnés à faire autre chose que le buisson appris. Or, ne disons pas que nous n'avons pas besoin de gens dans les professions paramédicales, au contraire, nous en avons de plus en plus, parce que bon, nous allons installer insuffisamment, c'est sûr, des établissements hospitaliers, des cliniques et des établissements spécialisés, et nous en avons besoin de personnel. Donc construisons ces établissements, là encore pour répondre à ce que la France a besoin, et formons le personnel nécessaire. Mais cela, ce n'est pas lorsque le jeune homme ou la jeune fille a 20 ans que ça se règle, cela se règle à l'école primaire. Donc voilà, c'est donc un problème fondamental, et pour autant dire, même à l'école maternelle, voilà pourquoi le plan Langevin-Wallon a toujours sa valeur et reste toujours très 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 valable, entièrement d'ailleurs.
Est-ce que ce problème prend des aspects particuliers dans la région orléanaise ?
Il prend des aspects particuliers, c'est général. Vous avez en France, le chiffre n'est pas toujours précis, 500 000, 600 000 chômeurs. Nous avons dans le Loiret, à l'heure actuelle, je n'ai pas le chiffre précis, mais il était de 2600 au mois de juin, alors on peut dire 3000 personnes qui demandent un emploi. Et parmi ces demandeurs d'emploi, beaucoup de jeunes. Nous avions évidemment ici le personnel des bases américaines. La base américaine étant partie, le personnel est resté pour l'essentiel et a donc demandé du travail, était donc parmi ces demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, ils ont dû rechercher du travail. Ce qui veut dire que ce chiffre de 3000 correspond sans nul doute à la réalité, d'autant plus que nous sommes à la fin de l'année scolaire et où donc les jeunes que je vous citais n'ayant pas trouvé de travail se sont fait inscrire parce que cela permet, dans une limite vraiment très minime, de trouver un emploi, c'est-à-dire qu'un employeur peut très bien formuler une demande auprès du service de la main-d'œuvre, lequel service la transmet aux jeunes ou aux travailleurs qui a demandé un emploi dans tel ou telle profession, dans telle ou telle spécialité. Donc, ce n'est pas appelé à s'améliorer. Je vous citais tout à l'heure l'exemple de ce licenciement dans une usine ici, Malichaud, qui travaille d'ailleurs pour l'industrie aéronautique, et qui sont intéressés évidemment par le Concorde. Hein, vous Anglais, nous Français, nous sommes intéressés par ces choses. Eh bien, à partir du moment où il y a des licenciements, comprenez bien, c'est difficile de trouver du travail. Ouais, je viens de faire l'expérience pour mon propre fils. Alors qu'il y a un an au Conseil Général, j'ai été à l'initiative d'un débat sur ces problèmes. Mais c'est le drame à l'heure actuelle de la jeunesse, de ne pas pouvoir trouver de travail. Que l'on ait un diplôme, un CAP par exemple, ou que l'on n'ait rien, qu'on sorte simplement de l'école primaire. Et puisque aucune disposition valable n'est prise pour faire face à cette montée démographique des jeunes, parce que nous sommes une vingtaine d'années après la libération, donc il y a eu cette augmentation démographique, et il n'y a pas suffisamment d'offres d'emploi qui correspondent à l'avenue de jeunes sur le marché du travail. Ça veut dire que la demande est supérieure à l'offre. Et ça peut devenir catastrophique, parce que quoi faire de ces jeunes? Et on parle de la délinquance juvénile, on parle de ces jeunes eh bien, qui deviennent voleurs, qui occupent leur temps finalement à des choses qui ne sont pas correctes, que la morale désapprouve, mais lorsque les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes, qui est responsable? Pas seulement les jeunes, pas seulement les parents, mais également la société, qui ne permet pas à ces jeunes de pouvoir trouver une place dans la vie, une place dans la société. Et voilà pourquoi le problème de la jeunesse est un problème préoccupant, parce que la France est un pays jeune, et là encore, il faut savoir Eh bien, un pays aussi prestigieux que la France devrait pouvoir répondre plus valablement que cela, eh bien, aux préoccupations de la jeunesse et à ses désirs également.
On parle beaucoup aujourd'hui de la différence du droit des différents partis communistes de suivre chacun leur voie. Et incontestablement, tous les pays sont différents, ont des traditions différentes. Comment voyez-vous les aspects spécifiques du Parti communiste français? En quoi aurait-il des traditions ou des styles de travail qui seraient différents d'autres partis communistes?
Évidemment, nous, comme tous les partis communistes, notre but c'est de construire le socialisme dans notre pays. C'est ce à quoi nous nous employons. Et nous pensons, et ce sont des aspects qui sont mis en relief à l'heure actuelle avec les événements de Tchécoslovaquie, nous pensons que c'est à chaque parti de définir librement, en toute indépendance, sa politique, en tenant compte des différents aspects nationaux. Ce qui est valable en France, ne l'est pas en Tchécoslovaquie, ne l'est pas en Belgique, ne l'est pas en Italie. C'est ce que nous appelons les particularités nationales. Et demain, en ce qui concerne, lorsque nous serons au stade du passage au socialisme, eh bien, nous pensons qu'il faudra tenir compte des particularités nationales françaises. Et en ce domaine, on rejoint une interview célèbre de notre camarade Maurice Thérèse, accordée au Times en 1946, dans laquelle il disait que nous irons au socialisme par d'autres voies. Qui ont été les travailleurs russes. Parce qu'il faut se placer dans le contexte de la Russie de 1917, et nous sommes en France, présentement nous sommes en France en 1968, incontestablement, rien n'est comparable. Donc nous tiendrons compte des particularités nationales, et voilà pourquoi Maurice Thérèse, dans ce célèbre interview, a défini que puisque nous irons aux socialistes par des voies différentes que celles de nos frères russes, et bien qu'en France, compte tenu d'une forte tradition parlementaire, il ne fallait pas exclure la possibilité de passer au socialisme par la voie pacifique, et notamment en utilisant la voie parlementaire, car les traditions parlementaires sont très profondément enracinées dans notre pays. Bien que le Parlement ne joue pas le rôle qui est le sien à l'heure actuelle sous le pouvoir gaulliste, mais il y a une tradition parlementaire fort enracinée dont il faut en tenir compte. Et voilà pourquoi nous n'excluons pas comme forme de passage au socialisme la voie pacifique. Et évidemment, je le répète, ce sont des aspects qui prennent beaucoup de relief, beaucoup de valeur à l'heure actuelle, puisque il y a les événements de Tchécoslovaquie qui nous ont préoccupés, qui ont pu préoccuper beaucoup de gens avec juste raison. Et donc, voilà pourquoi vous répondez à une chose qui n'est pas nouvelle. Nous tiendrons compte des particularités nationales de notre pays lorsque nous en serons arrivés à ce stade.
Est-ce que les événements de Tchécoslovaquie, entre autres, vous amènent à envisager de changer le style de travail? Je pense plus particulièrement à la conception de centralisme démocratique qui, par le passé, pour beaucoup, a semblé plus centraliste que démocratique, disons.
À mon avis personnel, pour ce qui concerne le Parti communiste français, il n'y a rien à changer. Nous ne sommes en aucune façon amenés à changer quoi que ce soit dans notre façon de diriger le Parti communiste, dans les façons de travailler de ce parti, à l'occasion des événements de Tchécoslovaquie. Nous avons pris la position que vous savez, et nous l'avons prise sur la base de nos principes. Certains pouvaient s'attendre à quelque chose de nouveau de notre part. Disons que là, la ligne de conduite du Parti communiste, en ce qui concerne les problèmes de la Tchécoslovaquie, ont observé une ligne droite. Et en ce qui concerne notre désapprobation de l'intervention militaire en Tchécoslovaquie, elle est fondée d'abord sur la nécessité de respecter des principes qui ont été admis par tous les partis communistes et que nous, Parti communiste français, nous avons sans cesse rappelé dans nos différents congrès ou sessions du comité central, à savoir l'indépendance de chaque parti communiste, c'est-à-dire la liberté de chacun de définir sa politique en tenant compte des particularités nationales, ce respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de non-ingérence dans les affaires de notre peuple. Et c'est parce que l'intervention des pays du pacte de Varsovie était en violation avec ces principes que nous l'avons désapprouvé. Et nous l'avons désapprouvé tout de suite parce que il y avait une ligne continue, je viens de le dire, en ce domaine, entre les appréciations que nous avions portées à un comité central d'avril dernier et les démarches que Waldeck Crochet a accomplies au nom de notre parti, à la fois à Moscou et à Prague, au mois de juillet dernier. Démarches qui voulaient que nous réglions les problèmes par l'intermédiaire de la discussion avec nos amis tchécoslovaques. Et voilà pourquoi, lorsque nous avons été informés de l'intervention des pays du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie, nous l'avons désapprouvé. Et c'était, dire l'aboutissement, c'est impropre, mais dire que ça s'inscrivait dans la ligne suivie par le Parti communiste depuis plusieurs semaines en ce domaine. Donc, pour nous, c'était la suite logique, c'était la position que nous devions prendre. Et il n'y a pas à revenir, cette position est conforme au respect de nos principes. Voilà.
Non, il me semble, je vous pose cette question en toute honnêteté, il me semble qu'il y a une sorte de contradiction entre le fait de désapprouver l'action de l'Union soviétique et en même temps d'affirmer que tout va bien en Union soviétique, n'est-ce pas, que donc un parti peut-être, parfait, ou pas parfait, mais enfin, peut-être un parti communiste valable, et en même temps commettre des actes qui vont à l'encontre des principes qui ont toujours été, depuis le temps de Marx, les principes des partis communistes.
Oui, il y aurait, mais il n'y a pas contradiction. Nous sommes en présence, enfin nous avons été en présence il y a 15 jours, d'une intervention militaire. Et nous avons pensé qu'elle ne pouvait pas servir le socialisme, qui était en violation de tous nos principes, en violation de la conférence de Bratislava qui s'était tenue au début du mois d'août. Voilà pourquoi nous l'avons désapprouvée. Et sur ce point, là aussi, notre parti, publiquement, a donné les choses. Mais, et personnellement, je me refuse à dire que tout va bien en Union soviétique. Nous n'avons jamais dit cela. Nous n'avons jamais dit, et les soviétiques eux-mêmes, que tout allait bien, que c'était le paradis. Que les soviétiques travaillent à ce que cela soit le paradis, eh bien, c'est incontestable. Mais présentement, ça ne l'est pas. Il y a des problèmes en Union soviétique. Rien ne se règle aussi facilement. Il y a l'industrie qui doit faire des progrès. Il y a l'agriculture qui doit combler son retard. On voit bien que dans chaque pays de démocratie populaire, entre autres, eh bien, il y a des problèmes de ce genre qui se posent, c'est des crises de croissance, et c'est donc tout à fait normal. Mais il faut absolument s'enlever de l'idée, ce fait que tout irait bien, ce n'est pas possible que tout aille bien. Et donc voilà pourquoi, en toute liberté, eh bien, c'est pas à nous de faire état des problèmes de l'Union soviétique. C'est à elle à régler ses propres problèmes, et il le règle. Et je fais entièrement confiance au Parti communiste de l'Union soviétique et au peuple soviétique pour régler leurs problèmes. Mais c'est normal qu'ils existent. Ça, les choses ne peuvent pas se développer en toute harmonie. Ce n'est pas vrai. C'est comme cela en régime capitaliste, c'est comme ça en régime socialiste. Lorsque les soviétiques en seront au stade du communisme, il y aura un peu plus d'harmonie dans les choses, peut-être certaines difficultés auront disparu. Sinon, ce ne serait pas le communisme. Mais, votre question concernait les erreurs. Alors là, à titre personnel, parce que c'est aux camarades soviétiques de s'expliquer, il n'y a pas d'infaillibilité. Il n'y a pas d'infaillibilité. L'Union soviétique a peut-être déjà commis des erreurs depuis qu'elle existe, depuis 50 années d'existence, tant sur ses problèmes de politique intérieure que sur ses problèmes de politique extérieure. Et nous pensons en effet qu'elle a commis une erreur très lourde, avec cette intervention militaire. Alors, c'est bien vrai que, là encore, pour ne pas s'immiscer dans leurs affaires intérieures, je terminerai en disant que c'est à eux de régler ce bon problème, selon moi, tout à fait à titre personnel, là, je n'engage que moi, incontestablement, ça doit poser des problèmes chez eux, et bien sûr au gouvernement soviétique et au Parti communiste de l'Union soviétique de les régler, et sur ce point, je leur fais entièrement confiance. Ils ont connu beaucoup de vicissitudes, beaucoup de difficultés, à chaque fois ils s'en sont sortis, comme d'ailleurs c'est la qualité de chaque peuple, de se sortir des difficultés. Mais tout ceci ne met pas en cause, notre attachement à l'Union soviétique. Pourquoi attachement? Parce que c'est le pays qui a réussi la révolution socialiste, qui construit le communisme, qui est incontestablement le pays qui va franchir, dès que ce sera possible, l'étape du communisme. Et puis, cela ne met pas en cause notre amitié, qu'on ne compte pas sur nous pour développer je ne sais quel point de vue anti-soviétique. Et d'ailleurs, une leçon a été donnée ici à Orléans mardi dernier. Il y avait les chœurs et danses de l'armée soviétique. Vous savez, ce magnifique ensemble, je ne sais pas s'ils ont été en Angleterre, mais enfin, ils ont déjà été dans beaucoup de pays, ce magnifique ensemble d'une centaine d'exécutants, d'une qualité absolument exceptionnelle, et à l'occasion de leur venue, évidemment, de simples gens, des hommes politiques, ont fait savoir qu'il était absolument indécent, à l'heure où l'armée rouge, eh bien, tenait sous sa botte, ont-ils dit, et je mets cela pour moi entre guillemets, la Tchécoslovaquie, il est absolument indécent de venir applaudir les représentants de l'armée soviétique. Alors c'est vrai que certains gens ont pu avoir ce réflexe, mais il fallait choisir d'abord l'art, la qualité de ce groupe artistique, avant d'évoquer les aspects politiques de la question. Et puis enfin, ce n'est pas parce que l'Union soviétique a fait une erreur, pensons-nous, qu'il faille maintenant oublier ce que l'on doit à l'Union soviétique. Les peuples du monde entier doivent beaucoup à l'Union soviétique, le peuple français en premier, car n'oublions pas Stalingrad, n'oublions pas les 20 millions de morts pour que l'Europe soit sauvée du nazisme. Et ça, nous le devons à la glorieuse armée soviétique, à tous ceux qui sont tombés. Donc, nous entendons ne pas entrer dans le jeu, et nous l'avons très bien montré au cours des 15 derniers jours, et pourquoi je dis que la population orléanaise a tenu compte de tout cela. Elle a tenu compte d'abord de la population, de l'aspect artistique de la venue de cet ensemble soviétique, puisque 4000 personnes ont applaudi. Il n'y a pas eu un murmure, il n'y a pas eu des approbations quelconques. C'est 4000 personnes qui ont applaudi la qualité artistique, et c'était suffisant pour témoigner, eh bien, un geste d'amitié envers l'Union soviétique. D'ailleurs, je pense que c'est dans les difficultés que l'amitié se renforce. Vous comprenez bien combien nous, communistes, nous pouvons être peinés de cette intervention militaire, mais, je le répète, cela ne met pas en cause notre amitié à l'Union soviétique, et je souhaite au contraire que, sur la base des explications qu'entre les communistes nous devons avoir, cette amitié sorte renforcée d'une terrible épreuve, parce que là encore, je pense que c'est peut-être dans les épreuves qu'on renforce l'amitié.
Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus. Est-ce que vous ne croyez pas que si les partis communistes, y compris le Parti communiste français, avaient pris cette même attitude indépendante, en quelque sorte, vis-à-vis de l'Union soviétique, disons plus tôt, que ça n'aurait pas peut-être aidé même l'Union soviétique à se développer plus rapidement? Parce qu'il y a des choses qu'on savait dans le temps, du temps du stalinisme, dont on ne parlait pas parce qu'on croyait que pour être fidèle à l'amitié soviétique, il ne fallait pas en parler. Il ne fallait pas que les gens le sachent. Est-ce qu'on n'a pas rendu un disservice, justement, à l'Union soviétique en se taisant à ces moments-là?
Nous sommes, en ce qui concerne notre parti, alors je vous réponds toujours à titre personnel, d'ailleurs c'est mieux, nous avons toujours agi pour l'indépendance des partis communistes. C'est Maurice Thorez qui encore a répondu, il y a plusieurs années, que la politique française et la politique du Parti communiste français ne se déterminaient ni à Londres, ni à Moscou, mais à Paris. Et notre parti communiste, et là, je rends hommage à sa direction, a toujours fait sien ce principe d'indépendance, de libre détermination des partis. Mais autre chose est de populariser les réalisations soviétiques. Quand même, il serait impardonnable de ne pas mettre en valeur ce qu'apporte le socialisme au peuple soviétique. En ce qui concerne le niveau de vie, en ce qui concerne les conditions d'existence, en ce qui concerne les avantages scientifiques qui sont ceux de l'Union soviétique. Pense en travers de cela à Gagarine, à Titov, à toutes ces réalisations qui font l'admiration du monde entier. Et ce n'est pas parce qu'il arrive cette petite difficulté avec les événements de Tchécoslovaquie que nous allons taire la réalisation de l'Union soviétique. Si demain il y a une grève du cœur ou la grève d'un organe quelconque par un médecin soviétique, le monde entier parlera de ce qui s'est passé en Union soviétique. Avec juste raison. Et nous, en ce qui nous concerne, nous communistes, eh bien, nous continuerons comme par le passé. Je pense que nous aurons cette attitude, il n'y a pas de raison qu'elle soit autrement. Nous continuerons comme par le passé à faire connaître les réalisations, les succès de l'Union soviétique, et cela dans tous les domaines. Sportif, enfin, dans tous les domaines, ça veut tout dire, artistique, sportif, politique, évidemment, scientifique, tous les domaines que l'on peut s'imaginer. Et il faut s'entendre par fidélité à l'Union soviétique. Fidélité ne veut pas dire subordination. Fidélité, non, amitié avec l'Union soviétique. Parce que c'est le pays qui a construit le premier socialisme, qui a ouvert la route du socialisme à toute l'humanité, et puis il y a quand même la dernière guerre. C'est pas possible de tirer, sur la base de je ne sais quel sentiment, un trait de plume sur un événement aussi considérable qui consiste quand même à l'écrasement de la bête hitlérienne dans l'armée soviétique. Je pense que, alors être fidèle, oui, nous aimons l'Union soviétique pour ce fait parce que c'est la patrie du socialisme. Et c'est parce que nous l'aimons que nous faisons. Lorsque l'occasion s'en présente, et présentement, que nous faisons les remarques qui s'imposent, ou que nous prenons la position, une position qui désapprouve telle ou telle attitude, et c'est le cas en ce qui concerne la Tchécoslovaquie. Ça ne met pas en cause notre amitié et après ça notre amour pour l'Union soviétique. Et là encore, c'est parce que nous y tenons beaucoup que peut-être nous tolérons moins d'erreurs de sa part que de n'importe quel autre. Vous comprenez ? Là, il y a un aspect de responsabilité dans la faute commise, c'est parce que nous aimons bien l'Union soviétique, parce que nous avons ces sentiments d'amitié à son égard, que nous ne pardonnons pas, disons, nous apprécions mal l'erreur qui vient d'être commise.
Comment expliquez-vous la difficulté qu'il semblait avoir en France pour rassembler une gauche qui soit vraiment capable de faire contrepoids au gaullisme et aux forces de droite de façon efficace sur le plan politique.
Voilà, ce problème fait l'objet de nos préoccupations depuis que la France connaît un pouvoir autoritaire, le pouvoir personnel, qui est venu sur la base du complot. Vous savez, vous rappelez la guerre d'Algérie, toutes ces choses. Et nous avons donc pensé que il fallait maintenant ouvrir la voie à une solution démocratique du pouvoir. Et nous avons toujours montré que cela ne pouvait pas être l'œuvre d'un seul homme ni d'un seul parti, fût-il le Parti communiste, mais que cela ne pouvait être que la tâche de l'ensemble des forces ouvrières et démocratiques. Des forces de gauche. Mais forces de gauche serait un peu restrictif. Pour ça, nous disons forces ouvrières et démocratiques, parce que, eh bien, on peut être chrétien et pas forcément avoir des options de gauche, mais vouloir également préparer l'avenir démocratique de la France. Donc, l'union des forces ouvrières et démocratiques. Mais en premier lieu, l'union de deux forces essentielles, qui sont le Parti communiste français et le Parti Socialiste, la SFIO, qui, avec d'autres partis de gauche, avec le Parti Radical notamment, s'est constitué en Fédération de la Gauche, Fédération de la Gauche démocrate et socialiste, connue sous le sigle FGDS. Et sans cesse, alors, nous avons dit, voilà, il faut que nous entendions. Il faut que nous réalisions, et nous sommes le pays du Front populaire, il y a donc une expérience en ce domaine, il faut que nous réalisions une entente. Mais pour regagner la confiance des larges masses populaires, il faut que cette entente se fasse sur quelque chose de solide, sur quelque chose de valable, dans lequel on leur a confiance et avec lequel on pourra construire la France socialiste de demain, en passant par l'étape de la restauration de la démocratie. Et nous avons fait des propositions sans cesse répétées avec à nos camarades socialistes, propositions qui n'ont pas toujours été acceptées, parce que, cela se comprend, on n'efface pas 20 années de division ouvrière. Depuis 1946, eh bien, vous connaissiez les rapports qu'il y avait dans la gauche française. La guerre froide, tous ces aspects en sont l'essentiel. Donc c'est difficile d'effacer 20 années de division ouvrière, 20 années d'anticommunisme, d'antisoviétisme. Et alors nous avons donc entrepris, avec patience, persévérance, le dialogue idéologique avec la Fédération de la gauche, mais notamment avec le Parti socialiste. Et nous avons répondu un peu à ce qui pouvait être une préoccupation. Nous avons répondu à tout ce qui était nécessaire de répondre pour aboutir à une entente. Il est normal qu'on aime bien que les choses soient claires. Pour pouvoir s'entendre, il faut parler franc, il ne faut pas que les clairs, parler net. Et ça, c'est une qualité du communiste. Alors nous avons répondu. Nous n'étions pas embarrassés d'ailleurs pour répondre à toutes les questions que l'on pouvait nous poser. Mais nous l'avons fait parce que c'était nécessaire pour avancer. Évidemment, nous n'aurions pas répondu à une question qui aurait consisté à nous demander de ne plus être communiste demain. À une telle question, nous ne répondons pas, nous la récusons, qu'on ne nous demande pas ça. Mais nous voulions et on voulait avoir des éclaircissements sur tel problème, et bien nous les avons donnés. Et peut-être c'est insuffisant maintenant avec les événements en Tchécoslovaquie, et bien nous les apportons. Et nous y reviendrons s'il le faut. On nous a posé des questions notamment sur... différentes questions. Par exemple, les moyens de passer au socialisme. Et voilà pourquoi nous nous référons à ce salon d'interview au Times de Maurice Thorez. Les droits de la minorité. Et également, le parti unique. Est-ce que, par exemple, nous supprimerions tout ce qui n'est pas communiste et que seul le parti communiste préparait le socialisme? Nous disons que là aussi, nous voulons l'entendre non seulement dans le moment présent pour en finir du pouvoir personnel et pour redonner la démocratie à la France, un régime démocratique, mais également demain pour construire le socialisme. Donc là-dessus, nous avons apporté tous les éclaircissements qu'étaient en droit d'attendre nos camarades socialistes pour pouvoir s'entendre avec nous. Bon, alors, les événements actuels ne remettent pas en cause. C'est parce que nous sommes fidèles à ces éclaircissements qu'on nous demandait d'apporter, que nous avons pris la position que l'on sait en ce qui concerne la Tchécoslovaquie. Et donc, alors là, toujours à titre personnel, ben, je pense que les événements peuvent retarder, les événements tchécoslovaquiens peuvent retarder la réalisation de cette entente. Mais c'est un épisode que nous franchirons sans nul doute parce que cela correspond à la volonté de la classe ouvrière française. C'est pas possible de s'en sortir autrement. Ou alors, la gauche non communiste s'entend avec la droite. Et il y a des appels, il y a des sirènes. Il y a des sirènes qui appellent la gauche non communiste à s'entendre avec la droite. Si telle devait être l'orientation de la gauche non communiste, nous retomberions dans les ornières du passé, c'est-à-dire la période qui a vu des gouvernements de gauche faire la politique de la droite parce qu'elle était prisonnière de celle-ci. Et une entente d'une partie de la gauche avec la droite ne peut pas conduire la France vers un avenir démocratique. Cela ne peut être que la tâche de toutes les forces de gauche sans exclusive. Voilà pourquoi nous avons condamné et nous condamnons toute entente éventuelle du Parti Socialiste, de la Fédération de la Gauche, avec le Centre Démocrate, pour parler clairement, puisque le Centre Démocrate étant la force de droite classique de notre pays. En dehors de l'UNR, du parti gaulliste. Et ce faisant, alors, eh bien, nous condamnons ces intentions qui existent chez certains hommes de gauche. De dire, voilà, avec les communistes, ce n'est pas payant. On ne peut pas aller vers telle ou telle réforme, on ne peut pas entreprendre telle ou telle chose avec les communistes. C'est-à-dire avec les communistes. Et avec eux seuls, on peut entreprendre l'avenir démocratique, la construction de l'avenir démocratique de la France, pratiquer une politique de gauche favorable aux intérêts de la classe ouvrière, aux intérêts de la population laborieuse. Alors pour y parvenir, eh bien, il faut définir une ligne de conduite. Il ne faut pas que ce soit simplement une déclaration d'amour, c'est pas avec cela qu'on fait de la politique. C'est pas avec ça qu'on prépare l'avenir d'un pays. Et il faut que ce soit un programme. Et voilà pourquoi vous trouverez toujours dans nos thèses, dans nos paroles, la nécessité du programme commun de gouvernement. Et des bases de ce programme ont été élaborées. Il y a eu, l'an dernier, entre notre parti et le Parti Socialiste, eh bien, disons, une ébauche de programme. Et au mois de juin dernier, eh bien, ce programme a été complété en ce qui concerne sa partie économique et sociale, justement. Parce que, eh bien, l'entente, c'était pas fait sur tout. Eh bien, là aussi, chaque fruit mûri en son temps, eh bien, ce qui n'était pas possible il y a un an, eh bien, est venu à maturité au mois de juin, et nous sommes mis d'accord sur différentes options. Mais ce n'est pas encore le programme commun du gouvernement, c'est insuffisant. C'est une plateforme d'entente. De même que nous avons défini des tactiques électorales communes, qui ont permis, c'est une formule française, de faire mordre la poussière à l'adversaire. Notamment aux élections de 1967, la gauche a obtenu des sièges grâce à la discipline républicaine qui consistait au second tour à ce que le candidat de gauche le mieux placé au premier tour bénéficie du désistement de ceux qui étaient placés derrière lui au premier tour. Et incontestablement, la gauche a gagné des sièges de cette façon. De même qu'aux élections cantonales, personnellement, je suis l'élu donc à l'Assemblée départementale de ce plus important canton du Loiret, eh bien je ne suis pas le seul élu des électeurs communistes, mais je suis l'élu des forces de gauche, puisque au deuxième tour, j'ai bénéficié du désistement du candidat de la Fédération de la gauche, qui était un socialiste, qui est un socialiste. Et même tactique a été renouvelée aux élections du mois de juin, avec moins de succès évidemment, puisqu'il quand même s'est poussé à droite en faveur de l'UNR, en faveur du parti gaulliste, mais nous l'avons. Donc il y a déjà des possibilités d'entente, c'est la démonstration qu'il est possible de s'entendre, et que nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons aller plus loin vers ce programme commun de gouvernement. Là est la seule solution, un programme commun de progrès social, de démocratie réelle, de paix et d'indépendance nationale. C'est, disons, un peu les têtes de chapitre de ce que devrait être ce programme. Alors évidemment, il y a des choses qui nous divisent. S'il n'y avait rien, eh bien l'entente serait facile et nous serions déjà dans le même parti si rien nous divisait. C'est donc normal, à partir du moment où nous appartenons à des partis différents, qu'il y ait des choses qui nous divisent, notamment les problèmes de politique extérieure. Et bien là aussi, nous avons apporté des éclaircissements, nous avons donné nos appréciations, et bien là aussi, ça doit mûrir, et c'est une affaire qui ne saurait concerner les seuls états-majors politiques. Nous sommes patients, nous sommes persévérants en ce domaine, nous entendons tout faire pour aboutir à cette entente, parce qu'elle seule peut assurer la relève démocratique du gaullisme. Mais c'est pas une affaire d'état-major, c'est l'affaire du peuple français. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu une poussée à droite aux élections que le gaullisme est sauvé de la situation. Le gaullisme a refusé de rendre des comptes à la nation. Ce qui lui a rendu service, ce sont donc toutes ces exactions aventurières, gauchistes. Mais il est condamné à terme, ce pouvoir. C'est pas vrai que l'avenir appartient au gaullisme en France, mais que l'avenir appartient incontestablement aux forces de gauche. Par tradition, la force, l'affluence des partis de gauche, leur enracinement dans le pays, la volonté de la classe ouvrière et ses traditions, nous permettent d'affirmer incontestablement les jours du gaullisme sont comptés. Les jours, ça ne veut pas dire une huitaine ou une dizaine de jours, ça veut dire quand même une période beaucoup plus longue, mais nous y parviendrons d'autant plus vite que nous élaborons ce programme commun. À l'heure actuelle, le pouvoir gaulliste est incapable de résoudre tous les problèmes posés au pays. On l'a vu du point de vue social avec les grèves de mai-juin, on le voit en ce qui concerne l'université, il ne peut rien résoudre, et donc condamné à terme. C'est plus le pouvoir des banques qui doit diriger désormais les affaires du pays, c'est un pouvoir démocratique reposant sur les forces vives de la nation, classe ouvrière en tête.
À propos, jusqu'où doit aller, d'après vous, la démocratie en profondeur? C'est-à-dire, je ne parle pas des partis politiques et de leurs ententes, de leurs attitudes, n'est-ce pas, et de ce qui est très important, mais enfin dans la vie quotidienne, dans la vie du travail, à l'intérieur des entreprises. Disons, est-ce que vous donnez un sens plus positif au mot participation, n'est-ce pas, que certains sens à tendance de propagande, n'est-ce pas, qu'on a pu donner à ce terme?
Non, évidemment, nous condamnons la participation à la sauce bourriste, parce que, là encore, on veut tromper la classe ouvrière. Il faut s'entendre par participation. Et bien même sous le pouvoir actuel, nous pensons que la classe ouvrière, les travailleurs des services publics, peuvent participer à la gestion des entreprises, des services publics. Vous prenez par exemple la SNCF, qui est un important service public, les chemins de fer français. Eh bien, pour des raisons d'exclusive politique, la plus grande organisation syndicale des cheminots, la CGT, n'est pas présente dans le conseil d'administration de la SNCF. Alors nous pensons que ce n'est pas tout à fait une gestion démocratique. Il faut donc qu'il y ait une juste représentation des organisations syndicales, donc sans exclusive, et également des usagers, de façon que chacun puisse apporter ses appréciations, ses remarques, ses suggestions en ce qui concerne la gestion de cet important service public. Et de façon à ce que ce service public eh bien, ne soit pas entre les mains des monopoles qui s'en servent là encore pour améliorer leurs privilèges. Là, on pourrait donner beaucoup de détails. En ce qui concerne la participation, eh bien, nous pensons que là, la part du bourgeoisisme, et sous le régime actuel, ça ne peut être que de la poudre aux yeux, car je ne pense pas que le bourgeoisisme soit prêt à partager le gâteau. Ce gâteau est pourtant grand. Mais les gens qui sont au pouvoir ont un fort grand appétit et ils préféreront garder la plus grande part pour eux. On rejoint là d'ailleurs le vieux projet gaulliste d'association capital-travail. Il y a longtemps qu'on en parle et il y a longtemps qu'on envisage de ne pas le réaliser parce que c'est irréalisable. Ce n'est pas vrai que sous le régime capitaliste, on peut associer valablement les exploiteurs et les exploités. Le gâteau ne se partage pas en part équitable. Eh bien, ce sont ceux qui détiennent les rênes du pouvoir, les rênes de l'économie, qui en prennent la plus grande part. Alors, nous n'entendons pas tomber dans ce piège de la participation gaulliste, parce que c'est irréalisable, valablement.
Est-ce qu'une participation quelconque vous paraît plus réalisable dans le cadre d'une industrie nationalisée ou dans le secteur privé? Il y a question du patron public, le patron privé.
Oui. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai cité l'exemple de la SNCF, qui est nationalisée, et qui quand même a, dans son conseil d'administration, une représentation autre qu'une représentation patronale, disons, vous comprenez? Mais j'ai fait cette remarque en ce qui concerne l'absence de l'organisation syndicale la plus représentative, la CGT.
Les autres sont représentés?
Oui, les autres sont représentés.
Ah, oui. Je pensais au cas de la Régie Renault qui présente une certaine ambiguïté.
Ambiguïté dans quel sens?
Du moins qu'on le compare avec les entreprises comparables du secteur privé,
oui.
La participation au moins matérielle des travailleurs qui paraît avoir marqué un certain déclin chez Renault dans les dernières années, ce qui paraît assez étrange.
Oui. Disons que les travailleurs bénéficient d'avantages sociaux qu'ils n'ont pas dans d'autres entreprises. Mais la participation est inexistante aussi. Comprenez, c'est le défaut des nationalisations en régime capitaliste. Nous sommes, nous, pour la nationalisation, mais avec gestion démocratique. Or, il n'y a pas toujours, on pourrait prendre tous les exemples de ce qui est nationalisé en France, il n'y a pas gestion démocratique. Comprenez, c'est le rectificatif, y compris dans le cas d'une démocratie bourgeoise, c'est le rectificatif que nous voudrions voir apporter. Alors que déjà, en ce domaine, eh bien, on donne l'exemple. Que le pouvoir donne l'exemple. Mais il n'a pas l'intention de le donner.
On pourrait peut-être maintenant passer de ces domaines de haute politique à quelque chose d'un peu plus personnel. Il doit être très intéressant pour nos étudiants, par exemple, de savoir
qu'elle a été en effet tout à fait banale pour vous, mais quelle a été la carrière d'un homme qui occupe telle ou telle position, qui adopte telle ou telle option politique. Est-ce que vous voulez bien vous parler un peu de carrière, enfin, comment vous êtes devenu communiste, comment vous êtes devenu...
Oui, je souris parce qu'on ne fait pas carrière, quoi. J'ai 38 ans. J'ai 38 ans et déjà, j'ai eu l'honneur d'assumer un certain nombre de responsabilités. J'ai adhéré au parti en 1947, c'était au lendemain de la libération, donc j'avais 21 ans, et c'est parce que le parti communiste, par les efforts qu'il déployait pour la reconstruction de la France, il y avait encore les ministres communistes au gouvernement, me semblait être le parti qui répondait aux préoccupations de la jeunesse. Chacun vient au Parti communiste sur la base de différentes appréciations, sur la base de différentes options. Moi, c'est parce que, jeune, je voyais que ce parti préparait valablement l'avenir de la jeunesse française. Et je ne suis pas déçu de mon jugement de l'époque, il reste toujours valable. Et c'est pourquoi, tout banalement, l'ouvrier métallurgiste que j'étais, que je suis resté, à adhérer au parti de la classe ouvrière, parce que, en plus, je ne voyais pas, je suis syndiqué, j'ai adhéré à l'organisation de la jeunesse communiste, qui s'appelait l'Union des Jeunesses Républicaines de France à l'époque, mais je voulais, appartenir à un parti politique. Et incontestablement, pour moi, à l'époque, avec mes yeux de 20 ans, avec mon inexpérience, pour moi, à l'époque, il n'y avait que... Et là encore, je ne suis pas déçu d'avoir fait ce choix, bien au contraire, je m'en félicite. Il n'y avait que le Parti communiste qui pouvait me tendre ses bras pour adhérer en son sein. Parce que parti de la classe ouvrière, et connaissant les responsables sur le plan local, sur le plan départemental, cela m'a encore incité à faire ce choix. Et puis, quelques années après, eh bien, on m'a demandé de devenir secrétaire départemental du Parti communiste dans le Loiret, c'est-à-dire en 1951. J'ai donc quitté l'usine, et je suis depuis ce qu'on appelle un permanent. Un secrétaire permanent. Et donc, depuis 1951, je suis secrétaire départemental du Parti communiste. Et ma foi, je crois avoir au mieux répondu à la confiance de mes camarades qui m'ont désigné à cette responsabilité. Entre-temps, j'ai été le député de Loiret en 1956. Je dois dire, parce que bon, cela fait plaisir en passant, j'ai été le plus jeune député de la dernière assemblée de la 4e République. Et il y a un aspect émouvant de la question, parce que le doyen était notre vénéré Marcel Cachin, notre directeur de l'Humanité, un des fondateurs, on va dire le fondateur de notre parti, et il y avait entre lui et moi une différence de 60 années. Et 60 années de différence entre moi, petit bonhomme, et Marcel Cachin, cela représente beaucoup lorsqu'on sait combien Marcel Cachin a apporté au mouvement ouvrier français et au mouvement ouvrier international. Alors c'était absolument pour moi très touchant d'être le plus jeune et que Marcel Cachin soit le plus ancien, soit le doyen. J'ai donc été député pendant 3 ans. Mon mandat a pris fin avec le complot d'Alger, avec l'arrivée au pouvoir de De Gaulle. Et en 1967, j'ai donc été élu au conseil général du Loiret, le conseiller général de ce canton le plus important, démographiquement parlant, de la banlieue orléanaise. Et donc cela va faire 1 an dans 3 semaines que je siège au Conseil Général. Il n'y avait jamais eu de représentant communiste au Conseil Général du Loiret depuis que le Conseil Général existe, c'est-à-dire depuis 1871. Je veux bien que de 71 à 1920, les communistes n'existaient pas en tant que tel, en tant que parti, mais disons que depuis que le Parti communiste existe, il n'y avait pas eu un communiste représentant l'Orléanais au Conseil Général. C'est ce qui démontre, une fois de plus, s'il le fallait, l'iniquité de la loi électorale. Parce que si on se basait là encore sur la représentation proportionnelle, eh bien il devrait y avoir 8 ou 10 membre du Parti communiste au sein du Conseil général, ce que nous appelons l'Assemblée départementale. Donc voilà, entre guillemets, ma carrière de politique. Voilà ce qu'elle a été, avec tout ce que cela comporte, évidemment, de dévouement pour son parti, pour les gens qui lui font confiance. Et ma foi, c'est toujours avec satisfaction, et bien qu'on voit le parti marcher de succès en succès, quelles que soient les difficultés du monde. Mais c'est cela la politique, ce sont cela les événements. Et c'est toujours avec satisfaction qu'on enregistre ces succès, que l'on voit le Parti communiste gagner des voix, que l'on le voit renforcé en nombre d'adhérents. Et puis ma foi, et bien tout cela, c'est le gage de succès. Alors il faut avoir confiance. Et personnellement, j'ai une très grande confiance dans l'avenir. Je suis optimiste par nature et je pense qu'un communiste doit être optimiste. De même qu'un communiste doit être gai. Sinon, il faut aller au combat la chanson à la bouche et la fleur aux lèvres. Sinon, nous sommes battus à l'avance.
Quand vous étiez à l'Assemblée, vous êtes arrivé d'adresser la parole à Marcel Cachin, sans doute.
Oui, bien sûr.
Vous étiez jeune, lui, c'était un dirigeant très vénérable du parti. Dans l'ensemble, on a l'habitude de se tutoyer, n'est-ce pas, au sein du parti. Est-ce que vous avez éprouvé du mal à dire tu, par exemple, à Marcel Cachin?
Je suis quelqu'un qui tutoie facilement. J'aime bien l'amitié et peut-être que des fois, bon, c'est un peu trop spontané chez moi, je tutoie facilement. Enfin, eu égard quand même aux différences d'âge. Et puis, eh bien, aux relations qu'on peut avoir avec telle ou telle personne, ça va sans dire qu'il ne viendrait jamais à l'idée de tutoyer le préfet du Loiret. Bon. Mais en ce qui concerne Marcel Cachin, je dois dire que, disons, on ne peut pas dire l'envie, mais enfin, l'intention ne m'est jamais venue. Avoir Marcel Cachin en face de soi, ça impose du respect. Et à partir de ce moment-là, cela ne m'a pas été possible, cela n'est pas, ne m'est même pas venu à la bouche, de lui dire « tu ». J'ai toujours dit « vous » à Marcel Cachin, par contre à Maurice Thorez, je disais « tu ». C'était plus facile. Mais à Marcel Cachin, vraiment, c'était impossible de dire « tu ».
Il y avait d'autres dirigeants avec qui vous avez du mal à dire « tu » ?
Non. 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 Non, non.
C'était un cas unique.
Ou alors, tout dépend évidemment, Aragon, par exemple. Comprenez, moi, le simple métallurgiste qui a tout juste son certificat d'études primaires, c'est-à-dire que je suis au plus bon niveau de l'instruction, hein, comprenez bien, il y a quand même déjà une certaine impression qui se dégage lorsqu'on a en face de soi un homme comme Aragon. Alors, si j'avais Aragon en face de moi, je n'ai jamais eu l'occasion de converser avec lui, je ne pense pas que je lui dirais du.
Et avec des camarades femmes?
Ah ben oui, là, oui. Oui, assez facilement, quoi. Enfin, là, tout dépend, vous comprenez, si c'est une camarade, bon, elle a beau être camarade, mais si elle arrive de Marseille, que je ne la connais pas, tout de suite, bon, on ira vous, mais quelques instants après, bon, ben, en se tapant sur l'épaule, bon, bien, hop, l'amitié se crée tout de suite, vous comprenez, oui. Il y a une question de contact, d'abord. Quand le contact est pris, alors, moi, je dis facilement, tu...
Dans la classe ouvrière, en général, les gens se tutoient.
Oui, oui. Contrairement à l'Angleterre.
Mais il n'y a pas de tutoiement, donc c'est pour ça que je pose la question.
C'est
un phénomène qui n'existe même pas.
Nous, dans une usine, vous comprenez bien, ou même entre collègues, vous prenez par exemple des instituteurs. Mais tant à l'usine, les ouvriers entre eux que les instituteurs entre eux se tutoient. Très souvent, mais à l'usine, c'est courant. Vous comprenez, on se tutoie d'emblée, on se tutoie, c'est vraiment courant. Il n'y a pas de problème. Et dans les familles, pareil. Il n'y a que dans ce qu'on appelle certaines familles bourgeoises en France, où on se dit vous, certaines familles nobles. Mais cela commence à disparaître. Ça disparaît très sérieusement. Je dis, le tutoiement, alors c'est monnaie courante en France, incontestablement.
Et dans la paysannerie du Loiret, les enfants tutoient leurs parents?
Ah oui, oui, oui.
Parce qu'il y a des régions où les enfants tutoient pas.
Oui, mais alors dans les régions riches, mais ça disparaît aussi, ça vous savez. Oui. Disparaît, oui. Oui.
Vous êtes originaire d'Orléans?
De Montargis. Ah, Montargis, oui. Est à 72 km d'Orléans. C'est la sous-préfecture, une sous-préfecture du Loiret, c'est la 12e ville du département, et c'est une ville où le Parti communiste a une bonne influence, notamment à Montargis, en tant que ville et la banlieue. On fait une différence notable entre Montargis et Orléans, par exemple. Mais dans la banlieue montargoise, nous avons une très bonne influence, et d'ailleurs, nous avons obtenu là aussi un conseiller général aux dernières élections. Nous sommes deux à siéger au Conseil général du Loiret, un donc pour la région orléanaise, puis l'autre pour la région montargoise. Alors c'est donc ma patrie, Montargis. On dit cela en général lorsqu'en France on est né dans un coin, c'est sa patrie. Alors on y va toujours un peu avec plaisir, vous comprenez bien. Il y a toujours un peu de chauvinisme dans ces choses-là. Montargis est une ville qui se développe beaucoup d'ailleurs. Nous l'appelons, ça peut vous servir, la Venise du Gâtinais parce qu'il y a 126 ponts. Il y a 126 ponts à Montargis, alors des ponts sur le canal, des ponts sur une rivière qui rejoint la Seine d'ailleurs, à proximité de Paris, qui s'appelle Le Loing. Puis alors il y a différentes petites rivières comme ça. Il y a 126 ponts à Montargis. Alors c'est voilà pourquoi d'où le surnom Venise du Gâtinais. C'est une ville qui est réputée parce que c'est là que se fabrique la praline. Et d'ailleurs, on fait beaucoup de pralines, puisqu'on en fait beaucoup de nougat, mais enfin, le vrai nougat se trouve à Montélimar, la vraie praline ne se trouve qu'à Montargis, c'est la véritable praline, je ne vais pas faire de publicité, mais enfin, je vais tout ça, la praline Mazet. Montargis, c'est connu. Tout comme à Orléans, il y a le Vinet ou il y a le Cotignac, à Montargis, vous avez la praline.
Et vos parents étaient ouvriers
de... Mon père était cheminot. Oui. Mon père était cheminot.
Oui. Et il y avait une tradition de gauche
dans la famille ? Ah non, non, non. Non, mon père était syndiqué, évidemment, au syndicat qu'on peut appeler de gauche de l'époque, à la CGT, et n'était pas membre du Parti communiste. Non. C'est de moi-même, vraiment, ce n'est pas de formation familiale, comme ça existe, c'est vrai, incontestablement ça existe, c'est pas de formation familiale que je suis venu au Parti communiste, c'est vraiment de moi-même. D'ailleurs, je n'avais plus mon père qui est décédé en 1939, c'est donc de moi-même qu'en 1947, j'ai pris le chemin du communisme.
Vous avez été élevé dans la religion ?
Ah oui, oui. Oui, vous savez, ça existe beaucoup dans les familles en France, parce que ça fait plaisir à la grand-mère, ou parce que les parents disent, ben moi j'ai fait ma communion, j'étais baptisé, alors on vous baptise, mais lorsqu'on a quelques mois, on vous demande pour votre avis, pour être baptisé d'abord, bon. Et puis après, bon, et bien comme, et notamment à notre époque, beaucoup plus que maintenant, le jeudi, il n'y avait pas grand-chose à faire pour les jeunes. Il n'y a pas les salles, il n'y a pas les maisons de jeunes, il n'y a pas tout cela pour occuper l'enfance. Eh bien, on le met facilement chez monsieur le curé, comme on dit. Alors, qui dit monsieur le curé, dit le catéchiste, l'aller à la messe tous les dimanches, et ma foi, bon, eh bien, comme beaucoup, comme Boris Thérèse d'ailleurs, j'étais au catéchisme, j'étais enfant de cœur, mais ce n'est pas pour ça que j'étais un bon chrétien. Et à partir du moment, vous comprenez, jusqu'à une dizaine d'années, bon, c'est pas vrai qu'on peut se faire. Qu'on peut avoir des options politiques. Bon, alors, puisque mes parents m'avaient mis chez monsieur le curé, et j'étais chez monsieur le curé, bon, mais j'étais pas meilleur chrétien que n'importe lequel, d'ailleurs, parce que c'est souvent comme cela. Et puis, lorsque je commençais à devenir un homme, eh bien, j'ai commencé, évidemment, à prendre option en politique. Et à m'apercevoir, eh bien, que, vraiment, je ne pouvais pas épouser la doctrine de l'Église, que je ne pouvais que la récuser, et préférant le matérialisme à l'idéalisme, eh bien, j'ai donc adhéré au Parti communiste. Mais voilà, j'ai fait comme beaucoup, et en France, c'est très courant.
Vous avez quitté vos idées religieuses en même temps, ou avant ?
Oh, avant, vous comprenez, dès que j'ai eu l'âge de dès que j'étais débarrassé, disons, de monsieur le curé, à savoir où il ne fallait plus aller à la messe le dimanche, en tant qu'enfant de cœur, par exemple, et le catéchisme, parce que vous savez, il y a un catéchisme, c'est les cours qu'on donne dans les églises, après on fait la communion. Une fois qu'on est débarrassé de ça, c'est un peu comme quand on sort de l'école avec le certificat d'études, on n'y retourne plus. Alors j'ai pu retourner chez M. le curé, vous comprenez. Mais alors en France, c'est des traditions qui existent, et dans des régions c'est plus ancré que dans d'autres, mais on fait facilement la communion, même si des fois les parents sont communistes, vous comprenez. Parce que ben, ça fait plaisir, et des fois les prêtres ici protestent, ils ont supprimé une messe l'après-midi parce que les parents n'aimaient pas beaucoup. Évidemment, il y a le repas du midi. Alors je connais un prêtre ici qui reprochait aux parents, ben oui, mais enfin, c'est pas bien, vous faites des communions simplement pour faire un repas, ce qu'on appelle un gueuleton en France, hein, faire un repas. Alors, ils ont donc supprimé les vêpres, c'est-à-dire une messe qui se tenait l'après-midi. Alors c'est une tradition, oui, pour faire des repas, pour faire une réunion de famille, quoi, on fait un baptême. Bon, on choisit les fêtes de Pâques, par exemple, pour faire un baptême, ben, c'est l'occasion de faire un bon repas, de faire une réunion de famille. Mais c'est vrai. Et je ne voudrais pas offenser les chrétiens que je respecte beaucoup et j'apprécie le fait que certains peuvent croire en cette doctrine, ils ont le droit, mais c'est bien vrai que beaucoup de gens ne croient pas plus en Dieu pour cela parce que la petite cousine ou le petit-fils va avoir fait sa communion, va avoir été baptisé. Ce n'est pas vrai. C'est comme cela d'ailleurs. Mais, alors ça existe quoi. D'ailleurs, c'est bien vrai que dans les églises, les gens n'y viennent pas plus qu'avant en ce qui concerne La messe du dimanche, c'est une obligation, et vous savez qu'aujourd'hui, on aime bien le dimanche partir, qu'on soit chrétien ou qu'on soit athée, eh bien, ma foi, on va respirer la chlorophylle, on va respirer l'air pur, bien mieux que des fois de répondre un peu à ce qui est ses obligations en vertu de sa religion ou de son activité politique, quoi.
Est-ce que vous, enfin, c'est peut-être une question explosive, est-ce que vous pensez que l'Église, non pas la foi, l'Église, a un rôle à jouer dans la France de demain, d'aujourd'hui même?
Dans la mesure où elle s'adapte au monde moderne, elle peut jouer un rôle. Nous avons pensé que jusqu'à présent, elle jouait un rôle réactionnaire. Mais dans la mesure où le pape, par certaines encycliques, je dis bien certaines, aide les travailleurs à prendre conscience de leurs forces, nous ne pourrons pas les approuver. Il y a certaines encycliques que, tout en étant marxistes, nous avons approuvées. Jean 23 en a fait, Paul VI en a fait également, sur ce problème de la paix, Jean 23 en a fait absolument de très valable. Et il est incontestable qu'il y a eu, dans la dernière période en France, un rapprochement entre les travailleurs communistes et les travailleurs catholiques. Nous y avons contribué parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que, et là encore, je me réfère à Maurice Thorez, puisque c'est en 1936, me semble-t-il, dans un discours qu'il tendait la main aux travailleurs catholiques, parce que dans une usine, et bien qu'on aille à la messe ou qu'on n'y arrive pas, et bien on est traité de la même façon par le patron, on est désespoté, donc en conséquence de quoi, nous bataillons ensemble pour défendre les mêmes intérêts. Ce qui veut dire qu'il y a eu donc un rapprochement très net, et nous y avons contribué, nous, mais les encycliques papales ont également contribué. Vous voyez qu'en France, par exemple, il faut compter, notamment dans cette région orléanaise, il faut compter avec les travailleurs communistes. Quand je dis travailleurs communistes, ça veut dire les membres du parti, mais ceux qui font confiance. Mais il faut également compter avec les travailleurs catholiques, qui là encore ne vont pas forcément à la messe, mais qui sont les travailleurs chrétiens, et qui, parce qu'ils appartiennent à une organisation syndicale qui a telle vocation, et, ou qui appartiennent à tel mouvement ou parti politique. Et incontestablement, nous sommes les premiers satisfaits qu'il y ait ce rapprochement entre communistes et chrétiens. Il n'y a pas de raison que ce rapprochement, il n'y a pas de raison qu'il ne s'effectue pas, il n'y a pas de raison maintenant pour qu'il disparaisse, là encore, parce que la classe ouvrière forme un tout, les travailleurs ont les mêmes intérêts, quelles que soient leurs opinions politiques ou philosophiques. Nous n'avons pas de distinction. Vous voyez, moi, je suis un élu. Il y a donc des gens qui gagnent mieux voir. Des gens qui n'ont pas voté pour moi, qui ne voteront peut-être jamais, mais ça peu importe. Hier, j'ai une dame vient voir, elle dit, je m'excuse, je n'ai pas voté pour vous, mais j'ai besoin de vos services. Mais j'ai dit, madame, je ne vous demande pas pour qui vous avez voté, je suis l'élu de tout le canton, je suis à disposition de toute la population, quelles que soient ses options politiques, quel que soit le candidat pour lequel les gens ont voté. Je suis un élu, je vous rends service, je souhaite qu'après cela, vous aurez vu qu'un communiste est à disposition de tout le monde. Si cela peut vous amener à voter communiste la prochaine fois, j'en serai satisfait, mais pour l'instant, eh bien, je n'en tiens pas compte de cela. Et c'est vrai, comprenez, ça doit être comme ça. On doit faire abstraction de toutes ces choses. Je reçois tout le monde, je défends les intérêts de tout le monde, évidemment, ce ne sont pas les patrons qui vont venir me trouver, ils ont d'autres défenseurs, cela va sans se dire. Mais en ce qui concerne ce qu'on appelle les simples gens, eh bien, nous sommes à disposition de tout le monde, et c'est ce que font l'ensemble de mes camarades qui occupent des fonctions électives à tous les niveaux.